sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce sont des figures oubliées de l'histoire de France sur lesquelles Franck Ferrand braque aujourd'hui les projecteurs de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Ruben Valéry vient de faire paraître à la librairie Vuibert un ouvrage intéressant où figurent 35 personnalités plus ou moins passées à la trappe de l'histoire et qui n'ont en commun qu'un aspect, la couleur noire de leur peau. Je vais commencer par vous raconter l'étonnante destinée de l'un d'eux, Camille Mortenol, qui était en charge de la défense aérienne de Paris. Figurez-vous, c'était juste il y a 100 ans, lors de la Première Guerre mondiale.
Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Violette, posée via la page Facebook de l'émission sur les origines de la machine à écrire.
Voilà un sujet très intéressant. Vous allez voir, pour le moment, je vous propose de faire mieux connaissance avec ce personnage totalement oublié, Camille Mortenol.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe, au milieu du 19e siècle, est une ville qui vient d'être ravagée par un séisme, le fameux tremblement de terre qui avait fait plus de 3000 morts le 8 février 1843. On n'en parle pas tellement finalement. À côté de l'éruption de la montagne Pelée au tout début du 20e siècle à la Martinique, on peut dire que ce tremblement de terre de 43 à la Guadeloupe est un peu passé inaperçu. Voici comment Jean-Claude Degras nous décrit cette ville à l'époque en grande difficulté. Le faubourg, souvent sous les eaux et toujours accablé d'une moiteur étouffante, nous dit-il, accentue la misère des riverains. Lors des grandes pluies, c'est en canot qu'ils se déplacent. Quant aux cases de bois, elles sont accolées les unes aux autres pour assurer leur équilibre précaire qu'accentue la vétusté. Elles donnent presque toutes sur des arrière-cours encombrés où stagnent des eaux pestilentielles. Les trottoirs sont inexistants et les caniveaux qu'on appelle dallos sur place, où pullulent rats et moustiques, favorisent le développement des maladies infectieuses. Choléra, variole, fièvre jaune, paludisme, autant d'épidémies qui font des ravages dont les enfants sont les premières victimes. Eh bien, c'est dans ce cadre, pour le moins sordide, en tout cas très peu engageant, que vient au monde, en 1859, Sosthène Héliodore Camille Mortenol. Il est le troisième enfant d'un ancien esclave, un dénommé André. Je vous rappelle que 1859, c'est 11 ans seulement après l'abolition définitive de l'esclavage par la France. La maison où est née Camille est une petite case, une maison créole. La famille est pauvre, évidemment. Ses parents, c'est Juliena Toussaint, qui est couturière, et ce fameux André Mortenol, à présent maître voilier. Voilier, ça veut dire qu'il répare les voiles, enfin, d'une façon générale, l'armature des navires. Camille a un frère aîné, Eugène, et une sœur, Marie-Adèle. Alors, à ce propos, il y a un doute. On peut poser d'emblée la question, Camille Mortenol est-il bien Camille ? Ruben Valéry nous dit, un certain mystère plane sur son identité. C'est vrai que le Camille qui va s'illustrer, et dont nous allons raconter l'incroyable destinée, qui va s'illustrer dans l'armée française, pourrait bien n'être pas Camille, mais justement le frère aîné Eugène, qui était très bon élève, mais se serait trouvé être trop âgé pour suivre des études. Donc on aurait échangé l'identité des deux frères pour permettre au plus brillant des deux de rentrer dans la limite d'âge et de pouvoir suivre une scolarité gratuite, loin de Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre. Qu'importe, nous nous conformerons évidemment à l'état civil officiel et désormais nous l'appellerons évidemment Camille Mortenol. Alors, Camille est un très bon élève, vous l'aurez compris. Il fait son école, sa petite école, chez les frères de la congrégation chrétienne de Ploermel à Pointe-à-Pitre. Il se révèle un enfant doué d'une étonnante maturité d'esprit. Il se montre studieux et appliqué, si l'on en croit les bulletins scolaires. Sa famille, vous l'avez compris, n'a évidemment pas du tout les moyens de payer la suite de ses études, sauf qu'il est reçu premier au concours de bourse. Problème, il ne va pas pouvoir fournir le justificatif des ressources de ses parents. Alors, eh bien, il faut qu'il ait recours à la filière administrative. Il va solliciter personnellement le gouverneur de l'île. Et le 30 novembre 1875, c'est le ministre de l'instruction publique en personne, c'est Henri Vallon, très connu par ailleurs, puisque vous savez qu'Henri Vallon est à l'origine du fameux amendement qui a instauré la République en France, mais enfin ça c'est une toute autre histoire. C'est Henri Vallon qui confirme l'inscription de Mortenol au lycée de Bordeaux. Le ministre, nous dit Rouben Valéry, sollicite l'intervention de Victor Schœlcher, le père de l'abolition, bien entendu, pour aider Camille à obtenir une bourse octroyée à la fois par l'État et l'administration coloniale, de telle sorte qu'il poursuive ses études en métropole. Redevenu député de la Martinique depuis la fin du Second Empire et élu sénateur inamovible en 1875, Schœlcher use de son influence et de ses relations pour organiser la venue du jeune Mortenol en France. Un jeune homme nommé Camille Mortenol qui vient d'obtenir 14 nominations, écrit-il, 12 prix et 2 accessites au séminaire Collège de la Guadeloupe, voudrait venir en France pour se présenter aux examens de l'école navale, mais comme il est pauvre, il aurait besoin d'un passage gratuit à bord d'un transport de l'État. Il a 17 ans. La lettre de Victor Schœlcher est signée, elle est datée du 20 janvier 1876. C'est une lettre donc au ministre de la Marine et des Colonies. Et Valéry ajoute, soucieux de créer une nouvelle élite noire issue de la dernière génération d'esclaves bien intégrés à la société française, l'ancien ministre n'hésite pas une seconde à prendre sous son aile ce fils de voilier pour en faire l'incarnation des bienfaits de l'émancipation. Une sorte de discrimination positive avant l'heure, nous dit l'auteur. Février 1876, c'est donc pour Camille l'heure de quitter les Antilles et de prendre le chemin de la métropole. Il ne reviendra à la Guadeloupe à l'occasion d'un congé que 13 ans plus tard. Alors il débarque à Toulon, ce qui est un peu paradoxal puisque en fait c'est à Bordeaux qu'il va intégrer un lycée, le lycée Montaigne s'il vous plaît. Il faut imaginer ce que c'est qu'un lycée de l'époque, hein. On est en 1876, l'uniforme, les dortoirs mal chauffés qui veulent dire tout chronique et engelure, un travail intense. C'est difficile, pas de temps pour les loisirs, ou quasiment pas, et quelques petites sorties encore. Camille intègre une classe de mathématiques préparatoires. C'est des années très difficiles, hein. Son biographe Jean-Claude Degras nous dit « Il suscite curiosité et moquerie ». Pour l'époque, il est inconcevable d'imaginer assis côte à côte un fils d'ancien esclave et celui d'un grand bourgeois. Or, le moins qu'on puisse dire est que le lycée Montaigne de Bordeaux en accueille un certain nombre de grands bourgeois. L'adaptation n'est donc pas aisée en raison des différences culturelles et climatiques. Il n'empêche, Camille est tellement bon élève, si je puis dire, qu'il va obtenir son bac en 77. Il se prépare au concours des grandes écoles. Alors, c'est l'époque des révisions, du bachotage, bien entendu. Il est reçu à l'école militaire de Saint-Cyr, s'il vous plaît, 3e au classement, 19e sur 209 à l'école polytechnique. Voyez un petit peu le personnage à qui nous avons affaire. En prenant connaissance de ces résultats, nous dit Rouben Valéry, Camille ne parvient pas à dissimuler son émotion. Lui, le fils d'une simple couturière et d'un noir quasi illettré, voit s'ouvrir devant lui les portes d'un monde réservé à la fine fleur de la nation française.
Un extrait de Petite Fleur d'Henri Salvador sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Camille Mortenol.
Donc, notre Camille Mortenol, fort en thème, choisi, et fort en maths surtout, devrais-je dire, choisi Polytechnique, d'où sortiront aussi des gens comme Foch ou Joffre, bien entendu. Je le précise parce que vous verrez que ça a son importance pour la suite de notre histoire. Le cursus Polytechnique est essentiellement centré sur les mathématiques, évidemment. Vous connaissez la devise de l'école, hein, pour la patrie, pour la science et pour la gloire. Mortenol a la réputation d'avoir été le premier élève de couleur de l'établissement. En fait, c'est faux, puisqu'avant lui, il y avait le Martiniquais François-Auguste Périnon. Vous connaissez aussi cette anecdote, probablement, on la raconte très souvent sans savoir qu'elle a pour protagoniste Camille Mortenol. C'est la visite du président MacMahon à Polytechnique qui s'approche de lui, qui lui dit « Alors c'est vous le nègre, très bien, continuez !» MacMahon n'était pas une bourre de près, il a fait ça toute sa carrière. À l'époque, le meilleur de la classe était affublé du surnom de nègre, précise du reste de Gras. C'est bon à savoir parce que ça pourrait peut-être être à l'origine tout simplement de la gaffe du président de la République. Notre Camille va rester à Polytechnique jusqu'en 82 avec des notes absolument incroyables. Il sort 18e sur 205. On a l'impression que rien ne peut lui résister. Il est tout simplement un très brillant élève. Et à sa sortie de l'école, il choisit la marine, figurez-vous, la royale. Ça paraît complètement fou, parce que s'il y a bien un milieu... Déjà, bon, l'armée française en 1880, vous pouvez admettre qu'elle ne se soit pas un modèle de... C'est pas un milieu très ouvert, évidemment, ou très progressiste. Mais alors, la royale, c'est le monde conservateur par essence. Les deux tiers des militaires, des marins, sont royalistes à l'époque. On est vraiment dans ce qu'il y a de plus traditionnel. Eh bien, peu importe, il va faire l'école de matelotage et de timonerie de Brest. Alors, il y a la visite médicale, il est déclaré apte, bien entendu. Il porte l'uniforme des matelots, pantalon bleu, veste bleue garnie de 9 boutons alignés d'une encre dorée, les bottines noires, la casquette, enfin, on connaît tout ça. Il faut apprendre à vivre dans cette communauté extrêmement rigide, bien entendu, avec cette discipline incroyable qui est celle de la marine. Première sortie, si je puis dire, premier périple maritime pour notre Camille, en 82-83, à bord de la frégate Alceste, frégate à voile, bien entendu, ai-je besoin de préciser. Alors il apprend à fourcher un navire, à hisser les voiles, etc. Voyage ensuite aux îles du Cap-Vert, en passant notamment par les Açores et les Canaries. À 23 ans, il sera nommé aspirant de première classe. On est là le 16 janvier 1883. Et déjà, il s'attire les compliments de son capitaine de vaisseau, Cuverville, qui dit « Extrêmement travailleur, très consciencieux, parfaitement élevé et de relations très agréables. À bord de l'Alceste, il a beaucoup appris. Il observe et calcule très bien, commande tous les exercices et n'a besoin que d'acquérir un peu d'expérience pour manœuvrer très convenablement. Il voudrait être attaché dans l'avenir à quelques missions ou entreprises coloniales telles que Madagascar ou le Congo et il pourrait rendre certainement là de grands services, nous dit son chef. Donc vous voyez, l'élève exemplaire. On a envie de dire, tout irait bien si ce n'était la couleur de la peau de Camille qui évidemment va constamment poser problème. De 84 à 86, il est à bord du Bison dans l'océan Indien, promu enseigne de vaisseau. Tout le monde part pour Madagascar, c'est sa première aventure coloniale. Après tout, c'est ce qu'il avait demandé, effectivement. Il s'agit de convoyer des députés français vers la Réunion. Le but est aussi de faire, de montrer la force de la République française, qui étaient un peu les bâtiments qui font la contrebande dans la région, contrebande de guerre extrêmement, extrêmement dure. On est aussi au temps des premières remarques un peu aigre-douce sur le carnet militaire de notre personnage. Très sérieux et les consciencieux, lit-on. Ce sera un officier d'avenir si sa couleur ne met pas d'obstacle à sa carrière. Vous voyez quand même, alors est-ce que c'est de la part de ses supérieurs une forme de lucidité ou une forme de racisme? C'est assez difficile à dire. Cet officier est zélé et intelligent, nous dit un autre supérieur, mais il ne paraît pas avoir une grande autorité sur les hommes et la discipline de cette manière s'en ressent. Il va intégrer un nouveau bâtiment, l'Algésiras, pour un stage en 1886. Et très vite, il se passionne pour la question tout à fait neuve à l'époque, tout à fait nouvelle, des torpilles. Et du reste, il va entrer à l'école des torpilleurs. Il finira troisième du contingent au port de Toulon, ce qui devrait l'orienter vers la défense sous-marine, évidemment. Il continue à monter en grade, malgré les petits barrages dont on parlait. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il va faire aussi, et ça c'est très important pour la suite, il va faire la rencontre du grand Gallieni, qui à l'époque est gouverneur général de l'île de Madagascar. Gallieni se souviendra de lui, vous allez voir assez bientôt. Il reçoit par ailleurs la médaille commémorative de Madagascar, attribuée à toutes les troupes qui ont participé à la campagne de l'époque. Il est décoré le 30 septembre 1895 par le président de la République en personne, Félix Faure, décoré de la Croix de la Légion d'honneur pour ses exploits militaires à Marowai, à Marunga, tout ça à bord du Suffren. Alors, évidemment, la question qui se pose concernant notre Camille est de savoir s'il va pouvoir accomplir une carrière normale en dépit de la couleur de sa peau. Sur le croiseur Cécile, on est en 1892, voici ce qu'écrit l'amiral Rionnier. « Monsieur Mortenol est un noir du plus beau noir, écrit-il, aux cheveux laineux, et quelle que soit son intelligence et quelles que soient les qualités apparentes, je considérerais toujours comme très fâcheuse l'introduction d'officiers de cette race dans la marine. Le service en souffre souvent et beaucoup. Cela dit, je n'ai aucun préjugé contre la race noire et ne parle que le langage de la raison. Ben, il fait bien de préciser, ce monsieur, parce qu'on pourrait effectivement se poser quelques questions, bien entendu. En 1899, le capitaine Ardenne, qui commande la défense mobile de Toulon, écrit « Très bon officier sous tout rapport, on ne peut se dissimuler que la couleur de cet officier peut être une source de petits ennuis ». Voyez évidemment que... Et puis ça va le poursuivre. Et ce qui est évident, c'est que plus Camille Mortenol va monter en grade, et plus ce genre de remarque se fera insistante, déplaisante, fréquente. Évidemment, il y a là un problème pour l'armée de l'époque, un problème dont vous allez voir que la résolution n'est pas si évidente.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Camille Mortenol.
Dans un instant, avec Rubén Valéry, nous allons voir un peu ce qu'il en était de sa vie personnelle, de la vie privée de notre personnage qui, en 1902, le 9 septembre 1902, avait épousé Marie-Louise Nobal. Il écrivait « Nous ne connaissons rien de plus beau qu'une jeune fille et nous ne croyons pas que parmi toutes les splendeurs qui le prouvent, Dieu ait créé une expression plus frappante de sa divinité. » Et c'était le style un peu ampoulé de l'époque. En attendant, il continue à gravir les échelons. En décembre 1903, il devient officier adjoint du directeur des défenses sous-marines du port de Brest. Vous voyez, il est donc vraiment dans cette carrière-là. Et voilà que la Première Guerre mondiale va tout faire basculer. En 1914, Mortenol est toujours adjoint du contre-amiral commandant le front de mer Brest-Ouessant. Donc pour l'instant, il est dans son domaine. Il y a longtemps, entre parenthèses, qu'il devrait être amiral lui-même. Et ça le mortifie. On va y venir dans un instant. Mais... là où tout va changer, c'est dans l'affectation que lui prépare le gouverneur militaire de Paris, qui n'est autre que Gallieni. Rappelez-vous, Gallieni l'avait remarqué, je vous le disais. Or, Gallieni, à l'époque, travaille avec un marin, le capitaine de vaisseau Morache. En novembre 1914, ils établissent le programme rationnel de défense du fameux camp retranché de Paris. Fondamental avec ce qui se passait. Hein. Rappelez-vous que le front était arrivé très près de Paris, à une cinquantaine de kilomètres. Gallieni choisit de faire venir Mortenol dans la capitale au moment où Morache, justement, est relevé de ses fonctions par le ministère de la Marine. Voilà ce que dit le télégramme du 10 juillet 1915. En exécution des ordres de monsieur le vice-amiral, il est ordonné à monsieur le capitaine de vaisseau Mortenol de cesser ses services à bord du Carnot et de se rendre à Paris, étant désigné pour continuer ses services au camp retranché de Paris. Il devra se présenter à son arrivée au général gouverneur. Cette mutation ne résulte pas d'une demande de l'intéressé. Ah ben ça, c'est même le moins qu'on puisse dire. C'est une décision assez difficile à avaler, ça, pour Mortenol, qui avait comme espoir de commander une unité de premier rang. Voilà ce qu'il dit à son confident breton. L'ambition de tout officier de marine en entrant dans la carrière est de conduire un jour la flotte de son pays à la bataille. Il avait médité pendant plus de 30 ans sur tous les problèmes de stratégie et de tactique navale, nous dit son confident. Il s'était entraîné pendant 420 mois à affronter et à vaincre les risques de la mer dans une bataille navale. Et maintenant que la bataille était là, qu'il avait un commandement en mer, il se voyait débarquer à Paris comme un fusilier marin en 1870. Il y avait là évidemment une de ces bizarreries du sort qui font croire à cette ironie supérieure du destin dont parle Ronan. Évidemment, il n'a pas le choix. Mortenol est affecté à Paris. La Grande Guerre, nous dit Rubén Valéry, lui donnera l'opportunité de jouer un rôle de premier plan dans la défense de Paris et de laisser son empreinte dans le déroulement du conflit. Alors, à Paris, les premiers affrontements ne se déroulent qu'à une cinquantaine de kilomètres de la capitale elle-même, bien entendu. Le camp retranché est néanmoins très vite dépassé par l'intensité des attaques aériennes des Allemands. Ça, on l'avait totalement sous-estimé. Il a fallu donc s'organiser, il a fallu organiser la défense aérienne du camp retranché. Voilà ce qu'écrit Gallieni à propos de celui à qui il a confié cette mission. Le commandant Mortenol, nouveau commandant de la DCA, donc de la défense contre les aéronefs à l'époque, est très intelligent. Je l'avais déjà apprécié à Madagascar. C'est lui qui va donc se charger de la défense antiaérienne du camp retranché de Paris. Concrètement, il doit empêcher par tout moyen les aéronefs ennemis de survoler la région parisienne en général et Paris en particulier, soit en les détruisant bien entendu, soit en les obligeant à rebrousser chemin avant d'avoir atteint leur but bien entendu. Mortenol va faire merveille dans cette organisation-là, il est tout à fait excellent, il est informé en permanence des risques de bombardement de la capitale et de la proche banlieue. La ville intramuros est défendue par des postes de mitrailleuses et il faut imaginer la tour Eiffel notamment transformée en véritable forteresse anti-aéronef, bien entendu. Chaque jour, j'allais dire en tout cas chaque semaine, l'armée allemande arrive avec des nouveautés. On est dans la naissance même de l'aviation et de l'arme aérienne aéroportée. Et donc il faut constamment trouver des parades à ce qui est inventé au fur et à mesure des combats. Mortenol est excellent dans ce rôle. Il obtiendra pour l'ensemble de son travail pendant cette Première Guerre mondiale le grade de commandeur de la Légion d'honneur, s'il vous plaît, avec ce commentaire. Officier supérieur du plus grand mérite à son poste jour et nuit pour veiller sur Paris, assure ses fonctions avec un rare dévouement et une compétence éclairée. Décidément, depuis le début, la République n'aura eu qu'à se louer des services de Mortenol. Voilà ce qu'écrira plus tard, à l'époque du premier congrès panafricain, on va en parler dans un instant avec mon invité bien entendu, voilà ce qu'écrira le célèbre Gaston Monnerville, celui qui deviendra président du Sénat. « C'est ce commandant Mortenol qui faisait partie de nos associations, dira-t-il, très modeste, presque effacé, il ne parlait jamais de lui. Les avis qu'il émettait, les conseils qu'il nous donnait étaient tous inspirés du sentiment de solidarité. Il y fut fidèle jusqu'à son dernier souffle. » Bonjour Ruben Valéry.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup d'avoir exhumé ce personnage dont je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler en ce qui me concerne, alors que quand même il a joué un rôle essentiel à Paris pendant la Première Guerre mondiale, de ce Camille Mortenol. Il n'est pas le seul, il y en a 34 autres comme cela dans votre livre, alors on ne pourra peut-être pas tous les évoquer dans un instant, mais on va essayer d'en évoquer le plus grand nombre.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des Noirs de l'histoire de France, avec votre invité Ruben Valéry, enseignant, doctorant en lettres à la Sorbonne, auteur de Noir, Blanc, Rouge, 35 Noirs oubliés de l'histoire de France aux éditions Vuber.
Et oui, Ruben Valéry, 35 Noirs oubliés de l'histoire de France, dont notre fameux Camille Mortenol. D'où vous est venue cette idée d'écrire un livre sur les destins oubliés de personnes de couleur? C'est vrai que certains ont joué un rôle absolument décisif et on a, pour la plupart d'entre eux, oublié leur nom.
Oui, on a complètement oublié leur nom, du moins la plupart. Bon, il y a évidemment des personnages connus comme, vous venez de le citer, Gaston Monnerville.
Gaston Monnerville, bien entendu. Hein.
Vous avez aussi d'autres personnages comme le chevalier de Saint-Georges,
bien sûr.
Noir de Versailles, le général Dumas, Toussaint Louverture. Mais même si nous connaissons leurs noms...
Ça, on va dire, sont les célébrités.
Ce sont les célébrités, mais en même temps, nous avons oublié un petit peu leur histoire.
Oui.
Et c'est ça que j'ai cherché à raconter à travers Noir, Blanc, Rouge, 35 Noirs oubliés de l'histoire de France. Ce sont ces parcours si différents. Et qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à ces personnages? Eh bien, j'étais élève en terminale. Je venais d'avoir 18 ans, comme aurait pu si bien le chanter Dalida. Et dans la préparation d'un exposé portant sur les institutions de la Ve République, j'ai découvert, par hasard, une photographie dont je suis tombé, si je puis dire, amoureux.
La photographie, c'était celle du président du Sénat,
c'était
ça ?
Celle du président du Sénat, Gaston Monnerville. Et je me suis longuement étonné de voir un personnage comme lui. Un Guyanais qui a été amené à être à une époque le deuxième personnage de l'État et l'opposant du général de Gaulle. Et je ne comprenais pas pourquoi, dans les livres d'histoire, dans d'autres ouvrages, on n'en parlait pas, puisque c'était à une époque où on nous présentait des Noirs comme étant des modèles de réussite à travers des disciplines sportives ou artistiques. Et c'est donc pour lutter contre l'indifférence...
Cet oubli, disons, hein, voilà. Oui.
Contre l'oubli, contre l'ignorance surtout,
bien sûr.
Que m'est venue cette idée d'écrire Noir, Blanc, Rouge.
Oui. Alors, on va revenir sur un certain nombre des figures que vous avez comme ça sorties de l'ombre pour nous. Revenons peut-être à Camille Mortenol.
espagnol. Ce qu'il faut souligner, c'est l'époque dont on parle. Je l'ai bien dit, il naît en 1859, 11 ans seulement après l'abolition définitive de l'esclavage, en 1848, sous la houlette de Victor Schœlcher, bien entendu. Il est celui qui, en quelque sorte, va, à la toute première génération, affronter le regard des Blancs, si je puis dire. Quand il arrive en métropole, quand il se retrouve au lycée Montaigne, à Saint-Cyr, on dirait qu'il a fait exprès de choisir systématiquement les milieux les plus a priori hostiles, disons. Il est bien entendu le seul de son genre, ça c'est clair.
Oui, il était le seul.
Le seul de sa couleur, en tout cas.
Oui, il était le seul de sa couleur. En même temps, comme c'était un jeune garçon qui avait d'excellentes capacités intellectuelles, il pouvait y prétendre. Vous l'avez dit très justement tout à l'heure, on est à peine à une génération de l'abolition de l'esclavage. Les préjugés demeurent. Et même lorsqu'il deviendra officier supérieur de la marine, ce sera à une époque où on assistera à des expositions coloniales durant lesquelles, du moins par des initiatives privées, on présentera des Noirs comme des sauvages, comme des cannibales. Ce qui est quand même extrêmement
vexant. En tout cas,
des
Kanaks, oui. Ça, c'est la célèbre anecdote de l'exposition coloniale. On était allé très loin, là, dans le genre. Mais, d'une façon plus générale, on va dire, jusqu'à quand? Jusque dans les années 1960, à peu près, le fait d'être noir en France pouvait poser problème. Je ne dis pas que ça posait systématiquement problème, mais ça pouvait poser problème. C'était particulièrement vrai un siècle plus tôt, bien entendu, quand lui, il est là dans les années 1880. Il y a tout simplement le fait qu'il est en extrême minorité, en plus dans des milieux militaires. Ça joue un rôle. Un double rôle, d'ailleurs, parce que d'un côté, il y a le préjugé, bien entendu, mais d'un autre côté, il y a la hiérarchie, les ordres, une espèce de justice militaire qui va quand même le privilégier, le favoriser d'une certaine manière.
Il va être favorisé, effectivement. C'est vrai que sa présence peut paraître surprenante. Il a été dit tout à l'heure, il est le fils d'un voilier.
Ah oui.
Quasi,
réparateur de voile. Hein,
réparateur de voile, quasi illettré. Il n'a rien de noble, hein, aucune ascendance princière ou autre. Néanmoins, cela ne va pas rebuter les proches de Schœlcher de l'aider à se hisser à un certain rang. Ça, quand même, il faut le souligner. Tout n'était pas foncièrement raciste.
Non. Et d'ailleurs, dans toutes les... J'ai pas lu tous les commentaires qu'on peut avoir de la part des autorités militaires, mais globalement, ces notes sont non seulement excellentes, mais les appréciations sont toujours louangeuses, avec souvent cette petite réserve en disant, mais alors comment va-t-il faire? En gros, soyons clairs, est-ce que dans la marine nationale française, ce qu'on appelle la royale, hein, avec tout le prestige que ça suppose, multiséculaire, est-ce qu'il était possible qu'un noir devienne amiral? C'était ça la question. Et la réponse de l'histoire, c'est non, en fait.
Il n'était absolument pas prêt. Je crois sincèrement que de la part des officiers supérieurs et généraux, personne n'osait remettre en cause les capacités intellectuelles de Camille Mortenol. Nous l'avons très bien vu.
Oui, c'était, disons clairement, c'était un surdoué, grand surdoué. Même.
C'était un surdoué, c'était une grosse tête.
Oui, oui.
En revanche, auprès de ses hommes, de ses subordonnés, là, oui, ça aurait très bien pu poser problème. Et je crois que, d'une certaine manière, la lucidité, la raison a fini par l'emporter. C'est-à-dire que cette époque-là n'était pas prête à voir un officier général de couleur noire.
Alors comment expliquer que le général Gallieni, le vieux général Gallieni, hein, qui reprend du service pour les besoins de la Première Guerre mondiale, très haute personnalité militaire bien entendu, le choisisse lui spécialement pour venir remplacer son officier en charge de la défense du camp retranché de Paris?
Gallieni était quelqu'un de pragmatique. Il avait vu les compétences de Mortenol à Madagascar. Et puis lorsque la France est en danger, lorsque la France est confrontée à une véritable catastrophe, la plus grande tragédie qu'elle ait connue jusqu'à présent, eh bien je crois qu'à partir de là, on a besoin de toutes les forces vives du pays. Et Mortenol en faisait partie.
Alors, ce que vous montrez bien, c'est que Gallieni le soutient, enfin le fait venir, ça c'est certain, mais il n'est pas son seul soutien, puisqu'au moment où Gallieni n'est plus là, après sa mort, on continue à faire confiance à Camille Mortenol. Hein. Il conserve non seulement il conserve son rang et son poste, mais il a même une promotion, en fait. Donc, il devient l'homme de la défense aérienne de Paris, avec d'ailleurs une inventivité, une créativité, une présence tout à fait extraordinaire. On lui doit beaucoup, de ce point de vue. Il ne faut pas l'oublier. Hein.
On lui doit énormément. C'est vrai que la mort de Gallieni aurait très bien pu mettre fin à sa contribution au sein de la DCA. Absolument pas. Auprès du général Renault, auprès du capitaine Ferré de Pérou, ensemble, ils vont mettre au point des plans presque invraisemblables, surprenants, et qui pourtant vont prouver leur efficacité. Je vais vous donner un exemple très simple. Cette idée de reconstituer un faux Paris. Alors finalement, cela ne verra jamais le jour.
Un Paris de carton-pâte, en fait, hein, pour histoire de dérouter un peu l'adversaire.
Absolument. On projetait de construire ce faux Paris au nord-ouest ou au nord-est de la capitale. On le doit à la DCA. Heureusement, cela ne verra jamais le jour. Mortenol, c'est aussi l'augmentation des capacités de l'artillerie. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que en août 1915, Paris ne disposait que de 46 canons sur 32 postes en tir fixe. En janvier 1917, ce sera 90 canons sur 45 postes. Et cela va se révéler extrêmement efficace face à l'aviation allemande. Je vais vous donner une comparaison. À l'issue de la Première Guerre mondiale, on dénombrera 527 morts et 1261 blessés. Londres, qui est pourtant beaucoup plus éloigné,
oui.
835 morts, 1437 blessés.
Mais les chiffres sont parlants, tout simplement.
Les chiffres sont parlants.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est la destinée de ce personnage, bien entendu, et la place que lui a réservée le pays. Voilà ce qu'écrit Alain Guède, l'auteur de la préface de l'ouvrage, de sa biographie, disons. Camille Mortenol marque une différence profonde par rapport à ses prédécesseurs du siècle des Lumières. Il ne construit pas son destin dans un corps à corps permanent contre l'adversité, même si celle-ci est toujours présente. Il utilise les moyens qui sont les siens, intelligence, culture, clairvoyance, ténacité, les outils forgés par la République. Il y a un changement d'époque, bien entendu. Et vous-même, vous nous dites, son engagement au sein du conflit nous incite à revisiter le rôle joué par la population noire en ces temps difficiles, trop souvent réduit dans la conscience collective à celui du soldat colonial affreusement embourbé dans les tranchées. Il n'y a pas que les tirailleurs sénégalais, autrement dit. Hein. C'est important de le dire et de le souligner.
C'est important de le dire. Bon, parmi ces tirailleurs, il y en a certains que j'évoque dans le livre.
Oui.
Par exemple, le capitaine Charles Hunchoreré, un héros de la Seconde Guerre mondiale.
On en parle
aussi,
tiens, si vous voulez. Oui.
On en parlera tout à l'heure avec grand plaisir. Mais l'image des Noirs tend effectivement à changer, puisqu'on croit enfin en leur capacité. Ça,
alors,
c'est une idée qui est très forte et même révolutionnaire à cette époque.
J'espère que grâce à cette émission et bien sûr surtout grâce à votre livre, Camille Mortenol va sortir de l'oubli désormais, que d'autres vont s'intéresser à son très singulier destin. Ils sont 34 autres, disais-je. J'aimerais qu'on en évoque un certain nombre. Alors, vous venez à l'instant de parler du capitaine Charles Hunchoreré. On y viendra tout à l'heure. Avant ça, j'aimerais qu'on commence par un certain Severiano de Heredia. Alors là, son cas à lui est pour le moins stupéfiant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Dans mon île, ah, comme on est bien. Dans mon île, on ne fait jamais rien. On se dort au soleil qui nous caresse. Et l'on paraisse sans songer à dans mon île, ah comme il fait doux, bien tranquille, près de ma doudou, sous les grands cocotiers qui se balancent.
Salvador sur Europe 1, un extrait de son titre Dans mon île. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des Noirs de l'histoire de France avec votre invité Robin Valéry, enseignant, doctorant en lettres à la Sorbonne, auteur de Noir, Blanc, Rouge, 35 Noirs oubliés de l'histoire de France aux éditions Vuber.
Noir, blanc, rouge, 35 noirs oubliés de l'histoire de France, c'est le titre de l'ouvrage de Ruben Valéry à la librairie Vuibert. Alors, parmi les 35, il y en a un qui va devenir quand même maire de Paris. On l'a complètement oublié. Avouez qu'il n'est pas très connu quand même. Il s'appelait Severiano de Heredia. D'où venait-il ce Heredia? L'autre Heredia, si je puis dire. D'ailleurs, c'était un cousin lointain du célèbre poète José Maria de Heredia, en fait.
Oui, ils avaient un lien de parenté. Et Severiano de Heredia, il était d'origine cubaine.
Comme son nom l'indique.
Comme son nom l'indique, un petit-fils d'esclave. Ses parents étaient des gens de couleur libre. Alors, on parle de maire de Paris. Il convient plutôt de restituer son juste titre. Il était président du conseil municipal de Paris.
Mais oui.
C'est-à-dire qu'il assurait la présidence des débats. Il avait une fonction représentative. Cela dit, il ne disposait pas de pouvoir exécutif local en raison des événements de la commune qui étaient survenus quelques années plus tôt. Il a été président du conseil à partir du 1er août 1879 au 12 février 1880.
Et il était à Paris à l'époque du Second Empire quand même. Comment est-ce qu'il a vécu ça? Ça devait être assez difficile à l'époque, c'est le moins qu'on puisse dire, non?
Ça a été plus ou moins difficile, mais en même temps, à l'instar de Camille Mortenoy, c'était un jeune garçon qui était doué.
Voilà.
Il s'intéressait beaucoup à la littérature, comme si c'était de famille quelque part. Il a été amené à devenir critique littéraire. Aussi, il appartenait à un milieu plutôt privilégié, puisque grâce à un oncle fortuné, il a pu intégrer le lycée prestigieux Louis le Grand, ce qui n'est pas rien. Donc il a plutôt bien vécu cette période, mais en revanche, la fin du Second Empire a été pour lui comme une espèce de révélation, puisque c'est au lendemain du désastre de Sedan de septembre 1870 qu'il a décidé de devenir français et de se consacrer à la politique.
Il était républicain dans l'âme, évidemment.
Il était républicain dans l'âme. D'ailleurs, il siégera auprès des radicaux de gauche.
Alors, il dirige le conseil municipal à partir de 1879. Il n'y avait pas de maire de Paris au sens propre à l'époque, mais enfin, c'est l'équivalent, on va dire, du maire de Paris. Qu'est-ce qu'il fait de son mandat? Est-ce qu'on sait ce que Paris lui doit, d'une certaine manière? Même si ça n'a pas duré longtemps, quelques mois, je crois.
Oui, ça a duré 6 mois selon les règles de l'époque. Eh bien, Severiano de Heredia, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un passionné de littérature et il croyait en la démocratisation de la culture.
Voilà.
Et en ce sens, il va œuvrer à la création des bibliothèques municipales. C'est-à-dire que bon nombre de générations d'élèves, jusqu'à l'émergence d'Internet, lui doivent énormément, puisque si on a pu se cultiver dans les bibliothèques parisiennes, eh bien on le doit à Severiano de Heredia.
La culture comme arme de promotion sociale, en quelque sorte. Je pense que c'est le point commun à un grand nombre des figures que vous nous présentez. C'était des personnes qui essayaient, c'est qu'ils étaient obligés d'en faire bien plus que les autres pour arriver à se faire reconnaître, à se faire respecter et à grimper dans la hiérarchie. Ils étaient les très 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 bons élèves de la classe. C'était à ce prix-là qu'on les acceptait, bien entendu. Il y a un parcours d'ailleurs du même genre, c'est celui de Louis-Y Mathieu. On est tout à fait dans le même genre que Severiano de Heredia, en fait. Louis-Y Mathieu.
Ah, Louis-Y Mathieu, c'est une histoire assez incroyable. C'est une histoire qui est belle aussi, qui peut aussi être triste. Louis-Y Mathieu, c'est ce Guadeloupéen qui a été esclave. Il était tonnelier, il a aussi été ouvrier typographe. Il avait quand même un avantage, c'est qu'il savait lire. Et il savait extrêmement bien parler. De ce fait, il a été remarqué par des proches de Schœlcher. Nous sommes dans les années 1840. Et quelques mois après l'abolition de l'esclavage, eh bien, on le pousse à être le suppléant du candidat Schœlcher lorsque ce dernier vise la députation de la Guadeloupe. Alors, à cette époque, les candidats pouvaient prétendre à plusieurs circonscriptions. Schœlcher avait le choix entre la Guadeloupe et la Martinique et il préférera représenter les intérêts de la Martinique à l'Assemblée nationale et de ce fait, il laissera
sa
place.
C'est son suppléant qui va prendre sa place.
À Louis-Y Mathieu, qui était son suppléant.
Ce qui veut dire qu'en l'espace de quelques semaines, ce Louis-Y Mathieu va passer du statut d'esclave à celui de député de la République, en fait.
Oui, en l'espace de à peu près 3-4 mois, puisque les élections auront lieu en août 1848. L'application du décret d'abolition entrera en vigueur en mai 1848. Et je vous laisse imaginer un petit peu la réaction des autres députés lorsqu'ils découvrent Louis-Y Mathieu. Imaginez un instant. Vous êtes dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Vous croisez des gens comme Victor Hugo.
Ouais, oui.
Vous croisez des gens comme
Victor
Adolphe
Hugo
Thiers.
Était effectivement le fugace député de cette assemblée-là.
Qui représentait la circonscription de la Seine.
Absolument.
Vous aviez aussi le poète Lamartine.
Eh oui, enfin.
plus tard, vous trouverez Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du défunt empereur.
Et futur empereur lui-même, oui.
Futur empereur lui-même, aussi président de la République, le premier d'ailleurs de notre histoire. Et puis au milieu de tous ces gens-là, vous avez un ancien esclave qui a été tenelier, qui n'avait aucun droit jadis à... C'est une histoire, oui, c'est complètement stupéfiant.
Comment est-ce qu'on sait comment il était accepté, quels étaient les commentaires à son sujet? Est-ce que Victor Hugo a parlé de lui, par exemple? Enfin, ce serait amusant à voir.
Oh, je n'ai pas souvenir d'avoir lu un témoignage de Victor Hugo. Bon, il y a eu toutes sortes d'impressions. Bon, il y avait évidemment les proches de Schœlcher qui étaient extrêmement enthousiastes à l'idée de voir un personnage comme Louis-Y Mathieu. Louis-Y Mathieu, il ne faut pas seulement le percevoir comme un symbole, mais davantage comme un témoignage, finalement, de ce qu'a été l'esclavage. Je crois qu'il n'y a rien de pire que d'être traité comme un objet alors qu'on est un être humain. Donc vous aviez à la fois cette espèce d'admiration. Bon, sans doute, il y avait quelques colibés. Hein. Il y a toujours des préjugés qui s'avèrent tenaces. Mais bon, dans l'ensemble, il a été plutôt bien accepté. Il a même eu l'occasion de discourir devant tous ses collègues en les remerciant de ce qu'ils avaient fait, c'est-à-dire l'une des plus belles lois que la France ait adoptée. Malheureusement, sa carrière de parlementaire ne durera pas longtemps, puisque en raison d'une dissolution de l'Assemblée nationale, eh bien, son mandat ne lui sera pas renouvelé.
Oui. Mais enfin, tout de même, il a été ce député. On va dire qu'il a montré le chemin à un certain nombre d'autres. Alors, il n'y a pas que des hommes dans cette galerie de portraits. Il y a des femmes, notamment Paulette Nardal. Il faut venir sur son cas.
Paulette Nardal, alors, quand j'ai écrit sa biographie, j'avais en tête cette phrase d'Aragon, « La femme est l'avenir de l'homme ». C'est une phrase que je trouve très belle. Et c'est vrai que dans le cas de Paulette Nardal, eh bien, un certain nombre d'intellectuels noirs lui doivent énormément.
Elle est martiniquaise, elle. Hein,
elle
était née à la Belle Époque, en 1896.
Elle est martiniquaise. Elle est issue d'une famille très érudite, puisque son père est le premier élève boursier de Martinique à devenir ingénieur.
Toujours cette idée de la méritocratie, en fait. Hein.
Oui, la méritocratie, l'excellence par le savoir. Elle est la benjamine de cette sœur, toute elle aussi diplômée. Et lorsqu'elle débarque à Paris pour faire ses études à la Sorbonne, elle est quand même la première étudiante noire de la Sorbonne, eh bien elle est absolument fascinée et enthousiaste en découvrant cette ville. Il y a le cinéma, hein, c'est l'époque de Chaplin, de Mary Pickford. Elle se rend régulièrement au Bal Nègre, où elle peut, ne serait-ce un instant, renouer avec sa culture antillaise. Et puis aussi, elle est amenée bien plus tard à croiser des intellectuels afro-américains qui vont l'amener à s'interroger sur son identité.
C'est ça, voilà. Là, on est très près de la notion de négritude, d'une certaine manière. Hein.
Elle est à l'origine de la négritude, même.
C'est elle? Ah oui, vous dites ça, carrément.
Je pense, oui. Oui, beaucoup d'éléments nous laissent imaginer qu'elle est à l'origine de la négritude, puisqu'elle a eu une initiative qui était assez intéressante. Dans son petit appartement de Clamart, eh bien, elle réunissait tous ses intellectuels noirs, américains, mais aussi sénégalais comme Senghor. Vous retrouviez aussi le premier noir à avoir obtenu le prix Goncourt en 1921, c'était René Maran, à travers son ouvrage « Batoila ». Vous aviez aussi Léon Gontran Damas, Aimé Césaire. Et tous ces intellectuels échangent sur leur condition d'intellectuel noir, sur le fait d'être noir. Effectivement, le noir, il a un rôle à jouer. Il a une certaine importance. On ne peut pas considérer qu'il n'a rien fait dans l'histoire. Et cela va donner l'occasion à, à Paulette Nardal d'approfondir davantage ce concept.
Alors, on aimerait parler de Paulette Nardal plus longtemps. Je me demande si on ne devrait pas lui consacrer d'ailleurs une émission à part entière, parce que c'est vraiment un personnage essentiel. Il y en a beaucoup d'autres hein, dans votre ouvrage. Je ne vais pas faire la liste, je ne veux pas décourager tout le monde. Il faut aller lire le livre en soi, c'est passionnant. Il y en a un qu'on a promis aux auditeurs, c'est notre Charles Nchourere de tout à l'heure. Nchourere, dit-on, paraît-il.
Nchourere.
Oui, c'est comme ça que ça se prononce. Très beau cas, lui aussi. Beaucoup plus proche de nous.
Beaucoup plus proche de nous. C'est une histoire qui est magnifique, mais aussi tragique. C'est un héros de guerre. Il a participé aux deux guerres mondiales. Durant la première, il était jeune. Hein. Il avait à peu près 20 ans quand il s'est engagé. Il en garde un grand souvenir. Il décide d'y faire carrière. Il est affecté au Maroc, en Syrie. Progressivement, il finit par prendre du galon. Et puis, en 1940, alors qu'il aurait pu prétendre à prendre sa retraite en Afrique, eh bien, il veut absolument affronter l'Allemagne nazie. Il devient, à ce moment-là, commandant de la 5e compagnie du 53e régiment d'infanterie coloniale, mixte sénégalais. Il est affecté dans la Somme, très précisément du côté de la ville d'Eren. Et en fait, il est complètement dépassé par les événements. C'est-à-dire que les offensives allemandes sont extrêmement violentes. Il résiste, malgré tout. Et au bout de 72 heures d'affrontement, il se rend. Il fait prévaloir ses galons d'officier. Seulement, les nazis, qui avaient été profondément marqués par ce qu'ils appelaient la honte noire, c'est-à-dire cette période au lendemain de la Première Guerre mondiale où certaines régions d'Allemagne avaient été occupées par les tirailleurs sénégalais, se moquent complètement de cet officier noir, hein, qu'ils considèrent comme un sous-homme, hein, comme un Untermensch, et ils l'abattent froidement, 2-3 balles dans la tête. Alors que lui, il criait en allemand « Ich bin ein Offizier ».
Et il avait écrit cette très belle lettre à son fils. « J'ai une foi inébranlable en la destinée de notre chère France. Rien ne la fera succomber. Et s'il faut pour qu'elle reste grande et fière nos vies, eh bien qu'elle les prenne. Du moins plus tard, nos jeunes frères et nos neveux seront fiers d'être français et ils pourront lever la tête sans honte en pensant à nous. »
C'est une lettre qui est très émouvante, sachant d'autant plus que le fils, qui s'était lui aussi engagé durant le conflit, est mort quasiment en même temps que son père sur le front.
Merci beaucoup Rouben Valéry. Noir, blanc, rouge, 35 noirs oubliés de l'histoire de France, c'est publié par la librairie Vuibert.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Violette sur les origines de la machine à écrire.
Au cœur de l'histoire,
retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Violette. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait connaître les origines de la machine à écrire.
C'est vrai qu'on parle souvent de la machine à calculer et on oublie la machine à écrire dans cette affaire. Alors c'est Henry Mill qui est connu pour avoir été le premier à déposer un brevet pour une machine à écrire. Attention, on était en 1714. Aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemblait. Hein. Impossible de savoir si l'invention a été réalisée ou si c'était seulement un prototype comme ça sur le papier. Et on ne sait pas non plus exactement à quoi ressemblait cette prétendue machine à écrire. C'est un Français en 1780, il s'appelle Pingeron, qui va élaborer la toute première machine à écrire destinée aux aveugles. Il met au point tout un système de touches reliées à une barre de frappe. L'invention en question ne sera brevetée qu'en 1833. Et le but, c'est d'aider les aveugles à s'exprimer, tout simplement. La première machine à écrire qui sera commercialisé, c'est la Hansen Writing Bowl, du nom de son inventeur, le révérend danois Rasmus Malling Hansen. Il la met au point en 1865 seulement, donc c'est assez récent finalement. Il ne la commercialise qu'en 1870. Il est directeur du Royal Institute pour les sourds-muets à Copenhague, donc on est toujours dans cette idée d'aider les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Il souhaitait faciliter, si vous voulez, la communication entre ses patients et leurs parents, qui ne connaissaient pas tous le langage des sourds-muets, tout simplement. La machine est assez étrange, hein. J'ai là une photo sous les yeux. C'est pas du tout une machine comme nous la connaissons, c'est une sorte de dôme, comme un globe, surmonté de touches correspondant chacune à une lettre ou à un chiffre, et la feuille de papier est située sous le dôme, ce qui rend la frappe, entre nous soit dit, assez compliquée. Finalement, celui qu'on va retenir comme étant le véritable père de la machine à écrire moderne, c'est l'Américain Christopher Latham Sholes. Lui dépose son brevet en 1870, exactement comme son homologue danois. Son brevet sera racheté trois ans plus tard, en 73, par le fabricant d'armes Remington. On est à la fin de la guerre de sécession, il faut se renouveler, si je puis dire. Ça va être la machine à écrire Remington modèle 1, qui va être tellement célèbre, qui va être vendue dans le monde entier, en France, à partir de 1883. C'est très important, cette affaire, parce que ça va créer, en quelque sorte, la paperasserie moderne, il faut bien le dire, avec les débuts de la sténodactylographie et l'arrivée des femmes dans les bureaux, parce que du temps où on écrivait à la main dans les bureaux, c'était des hommes qui étaient des secrétaires. À partir du moment où on passe à la machine, ça va bientôt être des femmes. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck. Et oui, aujourd'hui on reçoit deux stars. Je peux vous dire que j'ai pas eu de mal à recruter des chroniqueurs pour cette émission. La réalisatrice Farida Khelfa, qui consacre un documentaire au chausseur star Christian Louboutin. Ils seront tous les deux nos invités entre 3 et 4.
Eh bien merci beaucoup Marion, on va écouter ça avec intérêt et je vous dis à lundi Céline. Cette fois je ne me trompe pas, c'est bien lundi.
Oui Franck, c'est bien lundi. Bon week-end.